En mars 2017, une vidéo diffusée par l'agence mauritanienne ANI annonce la fusion de quatre groupes armés sous une bannière commune. Peu de commentateurs mesurent alors l'importance de l'événement. 8 ans plus tard, le GNIM a été impliqué dans plus de 16 000 incidents violents ayant causé environ 39 850 morts au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Togo jusqu'à fin 2025, selon une estimation de Crisis Group réalisée à partir des données ACLED. Selon ces mêmes données, le GNIM serait impliqué dans au moins 58% des actes de violence politique au Mali et au Burkina Faso entre mars 2017 et décembre 2024, contre 33% pour les forces de défense et de sécurité de ces deux pays. Comprendre comment deux organisations djihadistes, le GNIM, affiliées à Al-Qaïda, et le IGS, affilié à l'État islamique, sont parvenus à ce niveau de présence exige de rompre avec les lectures réductrices qui, chacune à leur manière, tronquent l'analyse. La trajectoire réelle de ces groupes est à la fois plus enracinée localement et plus interconnectée aux dynamiques géopolitiques régionales que ne le suggèrent les cadres dominants. Généalogie, de la crise malienne à l'internationalisation, 2012-2017. La crise de 2012 au Mali n'est pas le point de départ du djihadisme sahélien. Des réseaux liés à ACMI opéraient dans le Sahara malien depuis les années 2000, mais elle en est le catalyseur décisif. La chute de Muammar Kadhafi en 2011 libère des arsenaux libyens et ramène au Mali des combattants Touaregs aguerris ayant servi dans les unités d'élite de l'armée libyenne. Cette confluence, réseau djihadiste préexistant, combattants expérimentés, crise de légitimité de l'État malien, crée les conditions d'une recomposition majeure en Sardine et le tournant islamiste de la crise malienne. En octobre 2011, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, est fondé sur une ligne explicitement laïque et nationaliste. Il coexiste immédiatement avec un rival, en Sardine, fondé la même année par Iyad Arjegali. Les deux mouvements partagent une base de recrutement Touareg dans la région de Kidal, mais leurs agendas divergent fondamentalement. Le MNLA revendique l'indépendance de l'Azawad au nom d'un nationalisme laïque, en Sardine revendique l'application de la charia dans sa lecture salafiste. Iyad Arjegali n'est pas un inconnu. Il est une figure centrale des rébellions Touareg maliennes depuis les années 1990, fondateur du MPA. En 1988, négociateur des accords de Tamanrasset en 1991 puis du pacte national de 1992. Sa trajectoire vers l'islamisme radical s'amorce dans les années 2000, lors d'un séjour en Arabie Saoudite où il se rapproche des milieux tablighis, puis à travers des contacts croissants avec les réseaux ACMI présents dans le Sahara malien. En 2012, il est l'homme charnière entre le nationalisme Touareg et l'international djihadiste. En janvier-mars 2012, la rébellion progresse à une vitesse qui surprend Bamako et la communauté internationale, Kidal, Gao, Tombouctou tombent successivement. En avril 2012, le MNLA proclame l'indépendance de la République de l'Azawad, proclamation non reconnue par aucun État. Mais la coalition tient peu, dès juillet 2012, en Sardine, ACMI et le Mujao marginalisent militairement le MNLA et prennent le contrôle effectif des grandes villes du Nord, y imposant leur lecture de la charia. L'intervention française Serval, janvier 2013, repousse les djihadistes des zones urbaines mais ne détruit pas leur réseau. En Sardine se réorganise dans les zones rurales et désertiques, développe ses katibas et étend ses connexions vers le centre du Mali où un prédicateur Peul, Amadou Koufa, bâtit depuis plusieurs années une base sociale dans le delta intérieur du Niger. La fusion de 2017, naissance du GNIM. Le 1er mars 2017, une vidéo de fusion consacre l'unification de quatre entités sous le nom arabe Jama Nura Al-Islam Wal-Muslim, Ansar. Din, Iyad Arjegali, base Touareg, Nord Mali, la branche saharienne. D'ACMI, réseaux algéro-sahéliens, la Katiba Massina, Amadou Koufa, base Peul, centre Mali, et Al-Mourabitoun, fusion antérieure de groupe saharien. La logique de cette fusion est à la fois stratégique et doctrinale. Stratégiquement, elle met fin aux rivalités internes qui fragilisaient chaque groupe face à la pression militaire française. Doctrinalement, elle inscrit ces groupes locaux dans l'international Al-Qaïda, accédant ainsi a un prestige, une légitimité et des réseaux de recrutement dépassant le Sahel. Iyad Arjegali en est désigné émir, Amadou Koufa, numéro 2. Le IGS, l'autre bifurcation. Pendant qu'Ansar Dine gravite vers Al-Qaïda, une autre trajectoire se dessine. Adnan Abou Ali Al-Sarraoui, ancien cadre du Mujahou puis Dalmourabitoun, prête allégeance à l'État islamique en 2015, rompant avec la mouvance Al-Qaïda. Il fonde l'État islamique dans le Grand Sahara. EIGS, rebaptisé en 2022 État islamique au Sahel lors de sa reconnaissance comme province, Wilaya, par l'État islamique central. Abou Ali Al-Sarraoui est tué en août 2021 dans une opération française. L'organisation est actuellement dirigée par Abu al-Bara al-Sarraoui. Le IGS et le JNIM incarnent la fracture globale entre Al-Qaïda et l'État islamique, reproduite à l'échelle sahélienne, avec ses propres logiques locales. Le JNIM, structure, présence et mode d'action. Architecture de la coalition, Katiba et autonomie locale. Le JNIM n'est pas une armée à commandement unifié. C'est une coalition de Katiba, brigade, qui conserve des identités, des territoires et des dynamiques de recrutement propres, unies par une allégeance commune à Al-Qaïda et à Iyad Arjegali. Cette structure décentralisée est à la fois une force, elle permet une adaptation locale fine et une limite, le au commandement ne contrôle pas toujours les actions de terrain. Le JNIM a étendu son recrutement bien au-delà d'un groupe ethnique unique, recrutant parmi les communautés Peul, Gourmanché, Djerma, Bariba et d'autres, tout en cooptant des combattants locaux et en exploitant les tensions communautaires enracinées dans les conflits agropastoraux et la marginalisation économique. Cette diversité invalide toute lecture ethnique de l'insurrection. Iyad Arjegali et Amadou Koufa, deux dynamiques. La direction bicéphale du JNIM reflète ces deux grandes lignes de force. Iyad Arjegali incarne la dimension touareg et nordiste, son réseau, ses appuis tribaux dans les Ifoga de Kidal, ses connexions avec les réseaux Acmi transsahariens. Amadou Koufa incarne la dimension peulée, centriste, son ancrage dans le delta intérieur du Niger, sa connaissance des réseaux maraboutiques locaux, sa capacité à formuler le discours djihadiste en fulfuldé pour atteindre les communautés pastorales. Ces deux figures ne sont pas interchangeables. Ils représentent deux modes d'implantation, deux géographies, deux bases sociales, ce qui explique la résilience du JNIM face aux opérations militaires. Neutraliser l'un n'affecte pas nécessairement l'autre. Zone d'opération, du nord vers les capitales. Le territoire du JNIM se divise en deux grands types d'espaces, les pays du Sahel central, Mali, Burkina Faso, Niger, qui constituent le cœur de son combat, et les pays côtiers considérés jusqu'ici comme des théâtres d'opérations périphériques. Au Mali, le JNIM est présent dans le nord. Réseau Ansar Dine Ifoga, dans le centre, Katiba Massina, région 2. Mopti et Ségou, et, depuis 2023 à 2024, dans le sud jusqu'aux abords de Bamako. En novembre 2025, le JNIM a lancé un blocus économique sur le Mali, désignant les chauffeurs de camions-citernes comme cible militaire et appelant la population de Bamako à cesser toute activité contraire à son interprétation de la charia, marquant une ambition de police morale urbaine inédite, jusque-là concentrée sur les zones rurales. Depuis l'introduction des drones en 2023, le JNIM a multiplié par 5 ce type d'attaque sur les 11 premiers mois de 2025 comparé à 2023 et 2024. Combiné, devenant le seul acteur non étatique au monde à maintenir ce niveau d'utilisation de drones dans plusieurs pays simultanément. Présence sans contrôle fixe, harcèlement, blocus et taxation. La trajectoire du JNIM au Mali révèle une évolution significative entre deux phases. Entre 2017 et 2022, le groupe parvient à exercer un contrôle territorial de facto sur des pans entiers du centre malien, le blocus de Farabougou, 2020 à 2021, qui prive pendant des mois une communauté entière d'accès au marché et à l'aide, ou la présence quasi permanente autour de Moura avant l'opération de mars 2022, illustre cette capacité à administrer de fait des espaces en l'absence de l'État. Depuis 2022 à 2023, la donne a changé. L'opération de Moura, les offensives des FAMA et Africa Corps, et la reprise de Kidal ont réduit la capacité du JNIM à se sédentariser durablement dans une position Le groupe ne tient plus de villes au Mali de façon ouverte et continue. Sa présence est désormais mobile, réticulaire et économique, harcèlement des axes routiers, embuscades, poses d'engins explosifs et surtout taxation des flux commerciaux et des sites d'orpaillage. Le GNIM prélève des taxes ou prend directement le contrôle de sites miniers. Sa présence a été rapportée sur plusieurs sites aurifères de la région de Gao avant l'heure reprise par l'armée malienne. Cette évolution ne signifie pas un affaiblissement structurel. Elle révèle plutôt une adaptation. Le groupe maximise son emprise sur les flux économiques sans s'exposer à des cibles fixes que les forces armées pourraient frapper. Le IGS, le rival de Menaka à Tillabéri. Structure et commandement. Là où le GNIM est une coalition hétérogène, le IGS présente une architecture plus centralisée, organisée en zones militaires distinctes. Dotée chacune d'un émir, d'un cadi, juge, et de commandant militaire. Selon sa propre propagande, le IGS organise son espace en quatre régions. Burkina Faso, Mutalat, la zone des trois frontières, Andran-Boukane. Nommée d'après la ville frontalière dans la région de Menaka, et Azawag. Les marches Mali-Niger entre Menaka, Tillabéri et Tawa. En 2024, un rapport de l'ONU évalue ses effectifs entre 2000 et 3000 combattants. Zone de contrôle et expansion vers le Niger. Le IGS est historiquement ancré dans la région de Menaka, nord-est du Mali, dont il contrôle de facto les principaux cercles depuis son offensive. De 2022, une consolidation accélérée par le retrait de la MINUSMA fin 2023. Longtemps concentré sur Menaka, le IGS est aujourd'hui lié au même nombre d'événements violents dans l'ouest du Niger que dans le nord du Mali. La région nigérienne de Tillabéri a enregistré 92% des morts liées au groupe islamiste militant dans l'ouest du Niger en 2024, principalement attribuable à l'IGS. La proximité entre les zones de Menaka et de l'Azawag permet à l'IGS de concentrer ses forces sur de vastes aires géographiques, ce qui en a fait la force dominante dans la région transfrontalière des trois États. La violence de masse comme mode opératoire. Le IGS se distingue du GNIM par un recours plus systématique à la violence de masse contre les civils. Des communautés entières ont été massacrées. Dans les régions de Menaka et Tillabéri entre 2018 et 2021, souvent en représailles à leur résistance ou à leur coopération avec les forces de sécurité. Cette stratégie de violence de masse s'est développée d'abord en réponse à la résistance de communautés perçues comme soutenant les milices pro-gouvernementales, constituant une stratégie délibérée pour répandre la peur parmi les populations hostiles. Cette différence de méthode entre GNIM et IGS n'est pas simplement tactique, elle reflète des modèles de légitimation distincts. Le GNIM cherche à établir une relation de gouvernance avec les populations, même coercitive, le IGS recourt à la terreur comme instrument principal de contrôle territorial. Économie de guerre, comment ces groupes se financent? L'une des erreurs analytiques les plus répandues consiste à traiter le djihadisme sahélien comme un phénomène principalement idéologique, financé de l'extérieur. Les données disponibles dressent un tableau différent. Ces groupes sont largement autofinancés par leur ancrage dans les économies locales formelles et informelles. Les principales sources de revenus du GNIM comprennent les enlèvements contre rançon, le vol de bétail, le prélèvement de la zaka forcée et les ressources de l'exploitation aurifère. À cela s'ajoutent les péages routiers sur les axes commerciaux et la protection des trafics transsahariens. L'orpaillage artisanal constitue une source majeure et sous-documentée. Des témoignages recueillis par des chercheurs indiquent que des orpailleurs tendent parfois à préférer les sites sous influence djihadiste à ceux contrôlés par d'autres groupes armés, dont la taxation plus élevée est un frein illustrant comment le GNIM s'engage sur les marchés illicites. Non seulement pour obtenir des ressources, mais aussi pour asseoir une légitimité locale en tant qu'autorité de substitution. Le contrôle des flux commerciaux est une autre dimension structurante. L'expansion territoriale du GNIM lui ouvre l'accès au contrôle des flux transfrontaliers, pièces détachées de motos, bétail, carburant, soit pour taxer les produits passant en fraude, soit pour servir sa propre chaîne logistique. Les enlèvements contre rançon ont historiquement représenté une source majeure, en particulier pour Acmi Sahara, des dizaines d'Occidentaux ont était retenu en otage dans le Sahara malien entre 2003 et 2020, générant des rançons estimées à plusieurs centaines de millions de dollars selon les panels d'experts ONU. En octobre 2025, une rançon estimée à plus de 50 millions de dollars aurait été versée pour la libération de ressortissants des Émirats arabes unis retenus par le JNIM. Cette économie de guerre est analytiquement inséparable de la trajectoire de l'insurrection, elle explique pourquoi ces groupes ont intérêt à maintenir une insécurité durable plutôt qu'à conquérir et administrer des territoires. La rente du chaos est plus rentable que la charge de la gouvernance. JNIM contre IGS, une rivalité structurante. La coexistence du JNIM et de l'IGS dans le même espace géographique n'est pas une cohabitation pacifique. Ces deux organisations se combattent pour le contrôle territorial, le recrutement et la ressource. Le nombre de morts résultant de leurs affrontements a cependant diminué de moitié entre 2022 et 2023, passant de 6 cents à environ 3 cents, et cette tendance s'est poursuivie en 2024. Cette accalmie relative ne signifie pas une alliance, mais une adaptation territoriale mutuelle. Le IGS consolide son emprise sur la zone de Menaka et le Tillabéri nigérien, le JNIM s'étend vers l'ouest du Niger, le Burkina Faso et les pays côtiers. Les deux groupes ont intérêt à éviter des affrontements fratricides coûteux face à des adversaires communs. Cette rivalité a une conséquence analytique importante, elle invalide la représentation d'un front djihadiste sahélien unifié. Les intérêts des deux groupes divergent sur les ressources, les territoires et les méthodes, et ces divergences structurent en partie la géographie de l'insécurité. Le réseau FLA-JNIM, un seul réseau, deux visages. L'une des erreurs d'analyse les plus communes sur le conflit nord-malien consiste à traiter le Front de Libération de l'Azawad, FLA, et le JNIM comme deux entités distinctes qui se seraient alliées par convergence d'opportunités. La généalogie réelle des mouvements révèle une réalité plus profonde, il ne s'agit pas d'une alliance entre étrangers, mais de deux branches d'un même réseau de filiation. En 2012, Iyad Arjegali crée en Sardine sa figure politique centrale est son cousin Al-Ghabas Arjé Intala, fils de l'Amenokal des Ifoga, la plus haute autorité traditionnelle Touareg de Kidal. Al-Ghabas est membre fondateur d'Ansar Dine et conduit les négociations avec Bamako à Ouagadougou. En 2013, après l'opération Serval, il quitte officiellement Ansar Dine pour fonder le mouvement islamique de l'Azawad, MIA, dissous. Quelques jours plus tard, puis rejoint le HCUA de son frère Mohamed Arjé Intala, dont il devient secrétaire général. Le HCUA signe les accords d'Alger dans le cadre de la CMA. En 2016, Al-Ghabas prend la présidence de la CMA. En 2024, cette même CMA se restructure en FLA avec Al-Ghabas aux commandes. La même année, ce chef du FLA dit laïque et indépendantiste négocie avec le JNIM créé par son cousin Iyad Arjegali un pacte de non-agression avec libre circulation des combattants et partage de renseignements sur les mouvements des FAMA. Le 25 avril 2026, FLA et JNIM mènent ensemble l'offensive qui frappe Kidal et Bamako. La trajectoire d'Al-Ghabas Arjé Intala est la clé de lecture, le même homme passe d'Ansar Dine à la CMA signataire des accords de paix, puis au FLA en guerre ouverte, en maintenant à chaque étape des liens familiaux et opérationnels directs avec la direction du JNIM. Ce n'est pas une alliance conjoncturelle entre deux organisations distinctes. C'est un réseau unique à double visage, l'un présenté comme politique et séparatiste, l'autre assumé comme djihadiste, qui a fonctionné en parallèle. Depuis 2012, la bataille de Tinzawatène de juillet 2024, où CSPDPA et JNIM combattent côte à côte contre les FAMA et leurs alliés, en est la démonstration opérationnelle la plus documentée. Notre lecture, ingérence réelle, cause profonde, et le piège des explications uniques. Trois lectures dominent le traitement du conflit malien, chacune contenant une part de vérité, aucune n'étant suffisante seule. La lecture des « causes uniquement endogènes » qui réduit le JNIM et le FLA à des produits exclusifs de la crise de gouvernance malienne, sans facteurs extérieurs, est empiriquement insuffisante.